RFI 19h10 à Paris. L'heure de retrouver Guillaume Nodin en direct du Trocadéro, édition spéciale jusqu'à 20h à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère.
La 30e journée mondiale du refus de la misère, organisée par les Nations Unies en partenariat avec ATD Quart Monde, le quotidien La Croix et RFI.
Jean-François Nathan, vous êtes conseiller confédéral à la CGT, la Confédération Générale du Travail, vice-président du Conseil économique et social et environnemental, c'est situé à quelques dizaines de mètres ici, un petit peu plus bas dans la rue.
Je suis venu en voisin.
Voilà, et vous étiez là, vous, quand le père Brzezinski a présenté son rapport contre la pauvreté au Conseil économique et social il y a 30 ans, en 87. Donc on le disait, c'est le rapport qui était à l'origine de la création du RMI, le revenu minimum d'insertion. Vous étiez dans cette cérémonie là qui est continue sur le parvis des droits de l'homme. Comment c'était? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez chanté?
Je n'ai pas chanté. j'ai eu le privilège qu'ATT me demande de m'exprimer sur ce que je dois en fait au mouvement ATT Quart Monde et ce que je dois à la lecture des écrits du père de Brzezinski et d'avoir eu le privilège à un moment de présenter à Madame Antonos de Gaulle un projet. On était en 95.
Qui a succédé au père Brzezinski, hein,
la présidence. Alors, j'étais pas présent au 16e.
Oui.
Voilà, hein, j'étais trop jeune. mais les travaux du père Brzezinski et l'implication de Madame Antonius de Gaulle a fait qu'en 1995, jeune militant dans mon département, Haute-Savoie, nous avions, aux côtés de plusieurs militants d'origine diverse, syndicaux, mutualistes, engagés, créé un collectif Alerte contre l'exclusion. Et en 1995, nous avions été reçus par le mouvement ATT Quart Monde pour présenter un projet de mutualiste où on s'interrogeait comment par notre action, oui, nous pouvions concourir au combat contre les processus d'exclusion.
Alors on va revenir là-dessus. Vous avez parlé de la Haute-Savoie, c'est un excellent département.
Oui,
autre excellent département, la Loire-Atlantique. Yannick Vaugrenard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur socialiste de la Loire-Atlantique et vous avez appuyé le vote de la pauvreté comme 21e critère de discrimination. Donc vous connaissez bien le dossier. Quand on pense à des discriminations, on pense à des discriminations fondées sur la couleur de peau, sur le sexe, sur la religion, sur l'orientation sexuelle. On ne pense pas immédiatement à la pauvreté. Est-ce que, quelque part, la pauvreté a un visage qui fait qu'on vous ferme des portes?
Elle a des visages. Elle a de multiples visages. J'étais l'auteur du projet de loi sur le 21e critère de discrimination pour cause de précarité sociale, qui est d'abord passé au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale. Pourquoi déposer ce projet de loi? Parce que j'avais élaboré un rapport sur la pauvreté 3 ans précédemment. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'associations caritatives et humanitaires, en particulier ATD Quart Monde, qui a la spécificité de faire travailler en quelque sorte ceux qui ont été en situation de pauvreté. Et ce qui est important, c'est le témoignage de ceux qui ont vécu cette extrême pauvreté. Et il y a dans ces témoignages, par exemple, une femme qui vient avec son enfant chez l'orthodontiste, qui est normalement assurée à la sécurité sociale et à la mutuelle. Et puis, la situation de la famille change. Le papa est au chômage, la maman aussi, difficulté. Mmh. C'est plus la mutuelle traditionnelle, c'est la couverture maladie universelle.
Ouais. Et là, il y a du refus de soins.
L'orthodontiste entre dans la salle d'attente, et devant la maman et son enfant, et devant l'ensemble des patients, dit « Écoutez, maintenant, vous allez soigner votre fils à l'hôpital, parce que moi, je ne pourrai plus le soigner. » Voilà. Donc, ce qui...
Stigmatisation.
Stigmatisation, voilà. C'est-à-dire c'est la double peine. Ouais. Les gens, malheureusement, ces personnes sont en situation de pauvreté et en même temps, ils sont stigmatisés. Et donc, c'est ça, avec d'autres exemples qui m'ont dit qu'il faut absolument qu'il y ait un 21e critère de discrimination au même titre que le racisme, l'antisémitisme, la couleur de peau, enfin bref. Parce que, comment dire, trop souvent, on se rend compte que les hommes et les femmes, et de plus en plus, malheureusement, les enfants qui sont en situation de pauvreté, restent silencieux. Vous ne les verrez pas manifester derrière une banderole dans la rue. Et je pense que le rôle des associations et le rôle des responsables politiques qui prennent conscience de cela, c'est d'être les porte-voix des sans-voix, qui restent silencieux devant le drame personnel qu'ils vivent.
Bruno Dabou, vous êtes donc le délégué d'ATD Quart-Monde. Est-ce que cette loi sur la pauvreté comme critère de discrimination, ça vous aide dans votre action? C'est quelque chose que vous avez réclamé, d'ailleurs on vient de le dire, c'est quelque chose d'important pour vous?
On pense effectivement que cette question de discrimination, elle est centrale. On parlait tout à l'heure de bons pauvres et de mauvais pauvres. Et trouver des manières, y compris par la loi, d'interroger l'opinion publique, d'interroger chaque citoyen sur la manière dont on se comporte les uns avec les autres, sur la manière dont on obtient ou pas un rendez-vous, si on vient de telle cité, de tel quartier, de tel, même ça peut être un nom de famille, hein. Moi je pense à une famille dans une région de France, son nom est connu, son nom est... j'ai même toute une série d'exemples qui me viennent en tête de personnes où quand on donne son nom,
quand on voit son nom ou son adresse, c'est eux, on n'en veut pas.
C'est ça. Et bon, et ça, on parle de la France, mais en fait, je pense vraiment que c'est quelque chose de tous les pays du monde. Et ça nous pose la question de sortir de nos bulles, de rester entre les gens qui ont à peu près les mêmes origines, à peu près le même milieu social, à peu près les mêmes religions, à peu près les mêmes idées politiques, et d'aller à la rencontre de ceux qui sont en dehors, et d'aller jusqu'au bout de cette rencontre. De ceux qui sont vraiment dans l'exclusion sociale.
Christine Lazerge, la pauvreté, c'est un viol des droits des gens, c'est un viol des droits de l'homme, des droits humains, tout simplement. Hein. C'est un message du père Rezinski. Il n'y a pas que les droits opposables, c'est des droits humains. Essentiellement, d'ailleurs.
Les droits de l'homme imposent que tout soit fait pour que la pauvreté disparaissent au mieux. En effet, la pauvreté est une violation des libertés et droits fondamentaux, une violation des droits de l'homme. Et quant à la CNCDH, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, nous sommes extrêmement attentifs à entrer dans tout sujet par un droit fondamental. C'est ce qu'on appelle chez nous l'entrée par les droits. Et l'entrée par les droits sur le sujet de la pauvreté consiste à dire immédiatement: si l'on veut garantir l'ensemble des droits de l'homme, ceux qui sont posés par la Déclaration universelle de 1948, ou posés ensuite...
Qui est en préambule de la Constitution française,
on le rappelle. Et c'est aussi en préambule de la Constitution française. C'est un devoir, c'est un impératif que de lutter contre toutes les formes de pauvreté.
Jean-François Naton, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous avez combattu les processus d'exclusion. C'est quoi un processus d'exclusion? Ça peut commencer par un petit détail et puis ça fait un effet boule de neige. Qu'est-ce que c'est un processus d'exclusion?
Tout à l'heure, il y a eu sur scène que des moments de grande beauté et d'émotion, mais et tout un passage autour de la valeur travail. Et on est militant syndical, adhérent à la Confédération générale du travail. On a toute une réflexion sur le travail comme élément constitutif de l'humanité et de l'humain. Et un des processus qui concourt à l'exclusion, c'est quand même la perte du travail. Et donc son lien, en fait, son utilité sociale, la perte de l'estime de soi. Et donc, dans les années 90...
Quand on n'a plus de travail, à quoi je sers dans la vie? Je ne sers plus à rien. Quoi.
Voilà, et au-delà de la question même du revenu, même s'il est... c'est aussi un élément central de la vie,
d'avoir
un revenu pour vivre. Mais on a eu tout un, j'allais dire, une recherche et un acte d'entrée en résistance et on s'est rassemblés pour cela. Par-delà nos origines syndicales, qu'on soit de tel ou tel, on a rassemblé les bonnes volontés pour être ensemble dans une recherche pour combattre ce processus, ces processus. Et pour ce qui concerne le syndicalisme, c'est, ça a été un élément, alors on a beaucoup écrit dessus, de reposer la reconquête du travail. Et donc de remettre les personnes en situation de... Après, ayant des responsabilités dans le monde de la sécurité sociale, on a eu toute une réflexion sur comment les droits sont effectifs. Mmh. Et là, on a aussi travaillé très concrètement des avancées, donc on peut juger... Pas trop mauvaise.
Ouais. Vous parliez à l'instant d'emploi, qui est la clé de tout,
le
travail, d'utilité sociale de chacun. On en a parlé un petit peu dans la première partie de cette émission avec Louis Gallois, notamment cette opération, ce projet Territoire Zéro Chômeur. C'est l'un des projets phares d'ATD Quart-Monde. Pour lutter contre le chômage, le mouvement a donc lancé un programme expérimental qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Il vise à embaucher en CDI des personnes au chômage depuis plus d'un an sur des missions qui correspondent aux besoins de chaque territoire, donc c'est adapté localement. Les allocations spécifiques qui jusqu'alors étaient versées aux chômeurs de longue durée sont redirigées vers des entreprises à but d'emploi, chargées de créer des emplois qui répondent aux demandes que l'économie de marché ne peut pas satisfaire. Il faudra qu'on en parle, ça aussi. Il y a toute une économie du monde associatif, toute une économie qui n'est pas forcément à but marchand. Ces emplois sont créés aussi en fonction des capacités des chômeurs, travaux d'entretien, débroussaillage, soutien scolaire, livraison. Depuis janvier 2017, 10 territoires de moins de 10 000 habitants, ruraux et urbains, ont démarré l'expérimentation. Bernard Haru est le directeur de l'association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Écoutez-le.
Aujourd'hui, là, sur les 10 territoires, certains ont démarré plus tôt que d'autres, donc sont déjà à 40-50 salariés. Sur l'ensemble, nous sommes à 320 salariés aujourd'hui qui travaillent dans les 10 entreprises à but d'emploi. Ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui recrutent en CDI les personnes privées d'emploi depuis plus d'un an et qui habitent sur le territoire depuis plus de 6 mois. Ce qui fait l'originalité de ces entreprises, c'est que leur produit, c'est tout justement l'emploi. Les grands domaines dans lesquels ces emplois ont été créés, ce sont des domaines du service à la personne, du service aux entreprises, du service aux associations et aux collectivités. Et puis un autre grand domaine, c'est le domaine de la transition écologique, du recyclage, du réemploi. La grande qualité, c'est que ce sont de vrais projets de territoire. Ce ne sont pas des projets qui arrivent d'en haut, ce sont des projets qui ont été construits par les gens, hein, par les membres du territoire.
Bruno Dabou, cette interview là, recueillie par Anna Piekarek sur ce projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est le nouveau cheval de bataille d'ATD Quart-Monde. C'est un des projets phares de ces derniers mois.
C'est ATD Quart-Monde qui a été à l'origine. Là, aujourd'hui, dans les 10 territoires, c'est plein de collectivités territoriales, plein d'entreprises, plein d'élus, plein de personnes qui se mobilisent. ATD Quart-Monde, on est un partenaire parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on est au début. Dans l'interview, ce que j'ajouterais par rapport à... Ça s'est effectué avec les membres du territoire, ça s'est effectué avec les élus, mais ça s'est aussi effectué en demandant aux chômeurs de longue durée, en allant à leur rencontre et en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous voudriez faire comme travail ?» Qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pourriez faire, et donc aller à la rencontre de chômeurs de longue durée en leur posant cette question-là, c'est complètement inverser toutes les relations qui existent. Et de la même manière, aller à la rencontre des élus et en ayant sur ce pour monter ce genre genre de projet. Les élus, face à des chômeurs qui viennent taper à leur porte, et ils sont, enfin, ça, c'est un projet qui recrée de l'optimisme chez tout le monde. C'est des projets qui sont très, très difficiles à monter. C'est vraiment quelque chose d'expérimental. Pour moi, vraiment une question que j'ai, c'est est-ce qu'on va réussir à aller à la rencontre des chômeurs les plus découragés? Est-ce que dans chaque territoire, on va oser aller jusque-là? Et donc, mais c'est un projet vraiment intéressant.
Yannick Vaugrenard, vous qui êtes élu, c'est un projet qui vous paraît pertinent, intéressant
Oui, c'est un projet idéal. Est-ce que l'addition de ces projets idéaux permettra de régler l'ensemble du problème, j'en suis pas persuadé.
Pour l'instant, c'est expérimental.
Mais c'est expérimental. Mais je crois qu'il faut toujours, y compris dans le domaine social, ne pas craindre l'expérimentation. Trop souvent, d'autres pays craignent l'expérimentation dans tous les domaines, du reste. On fait tout pareil dans tous les départements, dans toutes les régions où que l'on se trouve.
Oui, il y a un petit côté colbertiste hein, qui vient d'en haut.
Alors, parfois, c'est bon, parfois c'est mauvais. Et donc, là, c'est complètement différent. Parce que là, c'est du coût humain, en quelque sorte. Du coût humain avec l'humain. Et ce n'est pas une mesure qui vient d'en haut administrative. Or, quel est le problème aujourd'hui? Je voudrais revenir là-dessus. De ceux qui sont en situation d'exclusion et qui ne touchent pas ce à quoi ils ont droit. Le problème, c'est le non-recours. 10 milliards d'euros par an. Et ces mêmes hommes et ces femmes sont stigmatisés, alors qu'ils n'utilisent pas leurs droits. Pourquoi ils n'utilisent pas leurs droits? Parce que sur le plan administratif, c'est compliqué. Parce qu'il faut répéter son histoire 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs successifs. Donc, ils décrochent. Et en particulier, les jeunes.
Il y a un découragement.
Il y a un découragement. Et donc, c'est l'humain. Effectivement, par rapport aux territoires zéro chômeur, c'est l'humain qui est mis en avant. C'est-à-dire qu'on prend le temps de rencontrer, de discuter, d'écouter, c'est l'attention à l'autre. Je voudrais simplement rajouter, j'espère ne pas
être trop long. Non, allez-y.
Simplement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'idéal, bien entendu, c'est d'avoir aujourd'hui 5 millions d'emplois. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain si ça se fait un jour. Et donc il faut que les hommes et les femmes qui sont en situation de non-emploi soient pour autant respectés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ce sont des citoyens de notre pays. Moi, j'ai envie de dire tout le temps, c'est avant tout des citoyens du monde. Et donc, ils doivent le respecter parce que ce sont des citoyens. Et non pas parce que par le fait qu'ils aient un travail ou pas. J'entends bien le fait que l'idéal, c'est d'avoir un travail pour être intégré dans le tissu social. Mais s'il n'y a pas suffisamment de travail économique, en quelque sorte, ils peuvent aussi être intégrés parce qu'ils peuvent être des bénévoles dans une association sportive,
Jean-François culturelle.
C'est un travail.
C'est travailler.
Mais c'est travailler, voilà. Mais pas forcément au sens économique, on l'entend habituellement.
Oui, il y avait
Donc ça, c'est aussi très important de nous donner une utilité qui ne soit pas forcément économique, mais qui soit une utilité sociale.
Du travail. Donc c'est la place du travail.
Oui, Jean-François Naton, ce projet-là dont on a parlé, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, difficile peut-être de l'étendre à tout le territoire, mais c'est un début.
Alors comme on a évoqué le père Brzezinski et Mme Antoniense de Gaulle, qui ont siégé au Conseil économique et social, le rapport de M. Brzezinski et les travaux de Mme Antoniense de Gaulle, territoire zéro chômeur, a été aussi l'objet d'une saisine du Conseil économique et social. Et donc la société civile organisée a débattu aussi de ce projet, de cette expérimentation. Et donc, militants, nous sommes extrêmement attentifs au développement et nous l'espérons tous à la réussite de cette dynamique. Alors, et là, c'est intéressant parce qu'on est bien au cœur de la place du travail. Mais moi, je n'ai pas parlé d'emploi. J'ai bien parlé du travail.
Il y avait le précédent quinquennat un ministère de l'économie sociale et solidaire qui a disparu. C'est dommage, ça, Yannick Vaugrenard. Je vous fais pas faire de politique.
C'est dommage. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est regrettable que ça n'existe pas sur le plan symbolique, parce qu'on considère que l'économie, c'est uniquement, je dirais, une économie productiviste et le secteur marchand. Là où je réagissais par rapport au travail, c'est par rapport au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire le travail, facteur économique. Et donc, effectivement, il y a un travail qui est un travail d'utilité sociale qui est autant à prendre en considération pour permettre de refuser l'exclusion. Là, je pense qu'on est d'accord.
De toute façon, le travail non économique peut conduire au travail sur le plan économique et que là, le retour...
C'est de l'insertion, oui, c'est de l'utilité sociale.
Et c'est extrêmement important parce que on fait participer à la propre réussite de sa vie des personnes qui ne sont pas dans l'emploi, mais qui sont avant l'emploi et vont peut-être être en mesure d'être employées ensuite. Mais on tourne beaucoup autour du travail. Moi, je voudrais penser aussi aux personnes en grande pauvreté, dont les enfants sont scolarisés et qui connaissent si peu comment fonctionne l'école, qu'il y a une espèce de rupture entre la famille et ce qui se passe à l'école. Et là, il y a un besoin d'accompagnement que je pense extrêmement important pour la réussite des enfants. C'était d'ailleurs très bien dit dans l'un des ateliers d'ATD Carmont de samedi. Faire qu'une maman ou un papa puisse avoir du plaisir à aller à une réunion de parents d'élèves sans se sentir encore une fois, considéré comme moins que rien parce qu'il ne comprend pas très bien les codes.
Eh bien, justement.
Et là, je trouve que c'est extrêmement important. Nous mettons l'accent là-dessus.
Vous me tendez une perche parce que donc le 17 octobre, c'est une journée qui est très importante, qui a été suivie notamment par l'Élysée, le président de la République. Et il y a des mesures ou des pistes qui ont été lancées aujourd'hui, notamment en matière de lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants. Écoutez la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Nous savons aujourd'hui que 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, que ce chiffre a augmenté de 1 million ces dernières années, que la pauvreté a changé de visage, qu'elle touche de plus en plus d'enfants, de familles, notamment de familles monoparentales, et de plus en plus de jeunes. 20% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. La concertation devrait se faire dans les 6 mois qui viennent avec tous les acteurs, de façon à renouveler notre approche de lutte contre la pauvreté et voir si nous pouvons investir socialement dans notre jeunesse, éviter que les jeunes pauvres d'aujourd'hui ne deviennent les pauvres de demain, favoriser l'égalité des chances, favoriser une approche préventive contre l'exclusion. Voilà, un grand moment de concertation et de co-construction d'une politique de lutte contre la pauvreté, avec un axe privilégié sur la pauvreté des jeunes et des enfants, dans un souci d'investissement social vis-à-vis de notre jeunesse.
Voilà, des propos recueillis par Aram Beg, Yannick Vaugrenard, une réaction sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que cet angle de la pauvreté des jeunes et des enfants vous paraît pertinent ?
Il l'est, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. C'est bien de parler des jeunes et des enfants en particulier, parce que ce qui est terrible, c'est l'hérédité de la pauvreté. Or, ce que nous constatons, c'est l'hérédité de la pauvreté. On pourrait concevoir qu'à partir du moment où nous vivons dans une période un peu délicate sur le plan économique et social, que tout un chacun peut devenir pauvre du jour au lendemain. C'est parfois vrai, mais statistiquement, globalement, c'est faux. Ceux qui sont pauvres aujourd'hui, bien sûr, ceux qui sont pauvres aujourd'hui ont eu leurs parents pauvres et leurs grands-parents pauvres. Donc ça veut dire que c'est d'abord, l'éducation, l'école, le logement d'urgence. Ouais. Parce que les enfants qui sont dans un hôtel et dont les parents changent d'hôtel tous les enfants changent d'école aussi. Donc c'est un vrai problème.
Quand ils sont scolarisés, il y a 10% qui ne sont pas scolarisés, ceux qui vivent dans les hôtels. Donc,
bien sûr. Et lorsqu'ils sont scolarisés, ils changent d'école tous les ans. Donc au-delà des discours, moi je suis, un peu circonspect par les discours successifs qui sont faits le 17 octobre de tous les ans.
Oui.
Je le dis. Toute danse politique confondue. J'en ai marre de cela. J'en ai marre. Pourquoi ? Parce que c'est impensable dans un pays comme la France, qui est un pays riche, 6e puissance mondiale, qu'on voit des enfants dans la rue, y compris à Paris, et qu'on ne lève pas le petit doigt. Je suis désolé. Moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait un numéro spécial 115 enfants. C'est quand même pas compliqué. Que tout un chacun se lève et dise et téléphone que lorsqu'il y a un enfant dans la rue, c'est déjà dramatique lorsque c'est un homme ou une femme. Lorsque c'est un enfant, c'est insupportable. Eh bien, faisons-le. Et il faut y mettre les moyens aussi. Donc si on veut mettre les moyens par rapport au logement d'urgence, il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas, je vais être sévère. Il ne suffit pas de verser une larme le 17 octobre de chaque année. Il faut aussi en tirer les conséquences politiques et financières. Et ça, ce sont des choix budgétaires au niveau de l'État, au niveau de la nation.
Est-ce que Bernard Monnet, qui nous avait rejoint, qui est militant ATD depuis des années, vous avez connu le 17 octobre 87, est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous avez parfois l'impression de vider la mer à la petite cuillère ?
C'est pas de la colère. Si j'ai un message à faire passer ce soir, ce n'est pas des lois, ce n'est pas simplement l'engagement politique, mais c'est surtout l'engagement de tout citoyen pour lutter contre l'extrême pauvreté. Mais c'est aussi une chose que Joseph, Père Joseph nous disait en 87, c'est savoir aimer. Aimer le plus petit que soi. On parle de l'école tout à l'heure, on parlait de l'école, de ces enfants à la rue, qui sont, qu'on voit, mais on ne parle jamais d'un enfant qui est dans la forêt, qui se cache, dans une grotte, qu'on ne sait pas où il est. Qui va aller chercher ces enfants-là? C'est ça la lutte contre la pauvreté. Le 17 octobre, on veut rappeler tous les ans, qu'il y a plus pauvres encore que nous, actuellement, qu'il faut aller chercher. C'est jamais fini. Et si nous-mêmes, les gens qui avons connu la pauvreté, on ne rappelle pas ça, tous les autres oublieront ce que veut dire refuser la misère.
Ça veut dire qu'il faut arrêter de fermer les yeux, tout simplement, c'est ça. Parce que souvent, on est témoin de choses qui sont révoltantes et on ne fait rien. Quoi. C'est
ça. J'entends ce que vous venez de dire et je suis d'accord. À la fois, ce sont des initiatives individuelles qui regardent tout un chacun, mais c'est aussi une responsabilité collective. Comment se fait-il qu'à Paris, lorsqu'il y a un enfant dans la rue, il n'y a quasiment pas de réaction individuelle ou très peu, et vous mettez le même enfant dans la rue à Saint-Nazaire où j'habite ou ailleurs, il ne restera pas plus d'une heure dans la rue sur le trottoir. Parce qu'il y a une espèce de force de la
différence.
C'est ouais. Simone de Beauvoir qui disait ce qu'il y a de scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Ouais. Eh bien, on s'y habitue tout sur les trottoirs. Et ça, c'est inadmissible.
Oui. Christine Lazerge.
Oui, je voudrais insister sur le fait qu'on est obligé de prendre la pauvreté par tous les bouts. Et que c'est, tout à l'heure, j'ai évoqué la question de l'école et de la place qu'il faut faire aux parents, aussi pauvres soient-ils, dans l'école. Mais nous n'avons pas encore évoqué la question du logement.
Et c'est prévu, ne vous inquiétez pas.
Non, mais je ne m'inquiète pas du tout. Mais cette question du logement, nous avons rendu à la CNCDH un avis récemment sur les personnes vivant en bidonville. Eh bien, ces personnes vivant en bidonville, ce n'est pas seulement triste parce que le bidonville n'est pas confortable, c'est triste parce que l'inscription à l'école va être compliquée, c'est triste parce qu'on va être trop loin d'un emploi ou d'une activité possible, c'est triste parce que la circulaire du 26 août 2012 sur les évacuations de logements de bidonville occupés essentiellement, mais pas seulement par des Roms, n'est pas respectée. Et qu'on évacue, il y a des familles qui sont évacuées 3 fois dans l'année. Et comment voulez-vous qu'après, les enfants n'aient pas des scolarités totalement brinque-ballantes ou cabossées? Cette question du logement, et j'ai croisé tout à l'heure sur la dalle du Trocadéro un monsieur qui avait été placé à l'aide sociale à l'enfance tout petit, relâché, si je puis dire, à 18 ans, à la rue.
Dans la nature.
Dans la nature. Et qui venait d'avoir, après des années de rue, un appartement, un petit appartement, sans accompagnement. Et pour lui, ce furent des mois d'accoutumance au fait d'être dans un appartement, dans la solitude d'un appartement, alors que dans la rue, il y a une certaine solidarité. Donc tout ça suppose de l'accompagnement et pas seulement des dispositifs. On trouve un dispositif, on ferme un dispositif, on rouvre un dispositif, mais il y a forcément de la solidarité qui doit aller plus loin que l'accès au dispositif.
Jean-François Naton.
Non, mais de la solidarité, et je l'entends intensément chacun de nous, en tant que citoyen, en tant que humain, il y a aussi une responsabilité politique. Et je pense qu'on est un peu dans une difficulté que va avoir à affronter ce gouvernement entre les premiers de cordée et la conception que l'on a de partir d'une conception d'une société à partir de ceux qui n'ont pas. Et considérer de partir de ceux qui n'ont pas pour construire le bien commun, c'est autre chose
que d'avoir le premier de cordée oui. qui va tirer toute la société.
Oui, et en fait, le premier de cordée, il n'a pas tout le monde sur sa corde. Il y a des gens qui n'ont pas de corde du tout.
Ça fait un moment que la corde est peut-être un petit peu coupée. Hein,
et après, on va être quand même assez nombreux, depuis tant d'années d'engagés, et avoir écrit tant de choses, on va rentrer dans la concertation. Hein. Mais vite et fort, on pourrait, parce que c'est des bibliothèques entières qui sont à disposition pour... et on sait ce qu'il faut tout de suite maintenant. Donc on va rentrer dans la concertation. Et si c'est pour mettre, entre parenthèses, un gouvernement avec la concertation à géométrie variable, si on va faire une concertation pour les questions de pauvreté sur de nombreux mois, mais pour agir sur...
Le code du travail,
ça a été rapide. Mais bon, je m'égare.
On n'a pas...
On va avancer. Nous allons... ça fait deux fois que vous me tendez une perche, Christine Lazerge. Merci. Vous avez parlé logement. Florent Villiers, lui, vit dans le Var avec sa compagne qui est au chômage. Il touche le RSA. Il est actuellement en reconversion professionnelle. Pendant plusieurs mois, il a vécu dans un petit cabanon dans le jardin de sa grand-mère à la campagne. Écoutez Florent Villiers.
Quand on n'a pas de logement décent, c'est compliqué. Hein, parce que déjà, rien que le niveau de l'hygiène... C'est très dur, on n'a pas l'eau courante, il faut aller chercher de l'eau à la rivière ou dans les fontaines. Et quand on n'a pas d'électricité, ben comment vous voulez qu'on fasse? Sans électricité, on ne peut pas recharger le téléphone, on ne peut pas être joignable, on peut pas... À l'heure actuelle, c'est difficile. C'est là qu'on prend conscience de l'essentiel des choses de la vie. Si on n'est pas propre, on n'est pas présentable, on ne peut pas aller voir des propriétaires ou des patrons ou qui vont nous... refuser des places alors qu'on a tout à fait les capacités pour, mais au faciès et à l'odeur, il y a beaucoup de racisme comme ça.
Bernard Monnet, je vous voyais réagir à l'écoute de cette interview d'Anna Picarec de Florent Villiers. C'est quelque chose qui vous parle évidemment.
Bien sûr, ça me ramène à des souvenirs lointains, mais tout ce qui vient de dire, ça existe encore aujourd'hui.
Oui, il le vit aujourd'hui d'ailleurs.
Dans les entreprises, quand on va chercher du boulot, c'est de plus en plus dur parce qu'on nous stigmatise. Rien que donner le nom du quartier où on habite, rien que notre tenue vestimentaire, vous savez qu'on n'a absolument pas d'argent pour se payer une tenue pour aller au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est pas mettre simplement en place des lois ou des choses comme ça, mais c'est de pouvoir réfléchir avec les personnes elles-mêmes à comment on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Il suffit pas de s'envoyer la balle entre gouvernement, droite, gauche, ou même gauche-droite, centre et autres. Moi, j'en ai ras-le-bol de ce discours-là des politiques. J'en ai vraiment ras-le-bol, que ce soit gauche-droite, centre ou extrême-gauche ou extrême-droite, ces hommes politiques, ces femmes politiques qui pourtant ont fait un choix de s'engager pour la France, puisqu'ils veulent améliorer les conditions. Qu'est-ce qu'ils ont compris en 30 ans de ce refus de la misère? Qu'est-ce qu'ils ont entendu des plus pauvres? Est-ce que vous n'avez pas entendu que les plus pauvres voudraient travailler avec vous, réfléchir avec vous, quel que soit le parti politique? Ils veulent vraiment être autour de la table, réfléchir, pondre les lois avec vous. C'est à partir de... des plus pauvres, comment y arriver?
C'est difficile, Yannick Vaugrenard, vous êtes interpellé une fois de plus, d'être à l'écoute et de travailler à la conception de la loi avec les gens qui sont directement concernés. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de filtres, finalement, pour concevoir la loi pour aider les plus pauvres?
Non, c'est à chaque responsable politique dans le domaine qu'il choisit de prendre ses responsabilités. Moi, lorsque j'ai élaboré le rapport sur la pauvreté en 2014, j'ai fait presque 100 auditions avec beaucoup d'associations caritatives et humanitaires, avec des gens en situation de pauvreté. Donc j'ai vu ce que c'était. Et ensuite, il faut en tirer les conséquences. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que dans les projets de loi, si on n'a pas le souci de se dire, est-ce que ce projet de loi que nous sommes en train de voter, y compris pour les personnes en situation de pauvreté, est-ce qu'on les a consultés d'abord pour savoir si c'était faisable, la loi qu'on met en place? Et le RSA, j'ai auditionné Martin Hirsch, lui-même l'a reconnu, que dès le départ, c'était pipé parce que c'était trop compliqué. 70% de ceux qui sont censés être bénéficiaires du RSA à l'époque ne le touchaient pas. Donc c'est bien de la responsabilité du politique de surveiller ensuite, une fois qu'il a déposé un projet de loi et qu'il a été voté, si ça suit au niveau de l'administration et s'il y a une simplification pour permettre aux hommes et femmes en situation de pauvreté de bénéficier au moins de ce que les politiques ont décidé. Mais ça, c'est responsable politique d'avoir un suivi des lois lorsqu'elles ont été votées.
Jean-François Naton, est-ce que ce n'est pas un peu le rôle quand même du Conseil économique et social de faire remonter cette parole-là ?
Ça va l'être de plus en plus. Et donc on est totalement engagé dans un vaste projet de transformation en fait, du Conseil économique et social, et avoir une responsabilité dans l'évaluation et dans notre capacité à oser dire « ça ne marche pas ». Ça ne marche pas. Donc on est totalement engagé. Après, le tous pourri est très très dangereux. Et donc on est aussi dans une situation où on a une véritable militance contre les processus d'exclusion. Et ça, c'est de la responsabilité du politique, c'est de la responsabilité du mouvement syndical d'être engagé et d'être au service de toutes et tous, et pas seulement de ceux qui ont. Et là, c'est une transformation aussi de nos pratiques militantes et de ce qui fait ce que nous sommes, si on veut rester, utile à la société.
Oui, parce qu'on a l'impression, enfin, on a souvent entendu Jean-François Naton ces dernières années, des reproches contre les syndicats qui défendaient avant tout leurs adhérents, avant tout les salariés qui sont en CDI et pas ceux qui sont en situation de précarité. Est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire du côté des syndicats ?
C'est une transformation du syndicalisme au regard de la situation réelle.
Mais c'est quelque chose que vous constatez,
oui. Si le syndicalisme ne se transforme pas, il disparaîtra. Parce qu'il ne sera pas utile à celles et ceux dont c'est l'essence même. Et donc, c'est une obligation.
Bernard Monnet, vous avez l'impression parfois de taper à des portes et qu'on vous écoute pas, enfin que tout n'est pas fait pour vous écouter.
Les syndicats, c'est des gens formidables parce que c'est des gens engagés au même titre que les hommes et femmes politiques. Mais quand vous parlez de réformer les syndicats, commencez à vous poser la question. Est-ce que, en tant que syndicat, je vais pouvoir travailler à partir de la pensée des plus pauvres ? Comment les plus pauvres peuvent venir dans ces lieux d'expression de démocratie ? Comment les syndicats peuvent participer aussi à nos universités populaires qu'on crée partout dans nos quartiers ? Comment ils préparent avec nous aussi ?
Par exemple, est-ce que les syndicats étaient présents samedi dernier, place de la République, l'événement que vous avez organisé avec ATD Quart-Monde ?
Oui, ils ont été présents, mais est-ce qu'ils ont eux-mêmes apporté quelque chose à la lutte contre l'extrême pauvreté dans ce projet de loi ? Je dirais qu'il se met en place pour les chômeurs, pour la formation professionnelle qui va être. Est-ce que ce projet-là de formation professionnelle qu'on veut redéfaire, Macron, il a dit, tout ça à zéro, ça vaut plus rien, on recommence à zéro, on va recréer un truc de formation. Et là, on va y arriver. Mais moi, j'y crois pas parce que... Si, pour y croire, si on ne part pas des plus pauvres, de l'expérience des plus pauvres qui ont eu des galères pour se former, vous vous rendez compte, j'ai moi-même fait 3 ans d'apprentissage. Je suis resté manœuvre toute ma vie. Parce qu'on n'a jamais, ni syndicat, ni parti politique, on n'a jamais aimé les pauvres. On ne les aime pas, les pauvres. Joseph disait souvent, il ne suffit pas de prendre une loi ou un texte, il faut travailler, réfléchir avec sa tête et son cœur. Si Joseph il a réussi à nous lever des bidonvilles, c'est parce qu'avant tout, il nous a aimés avant tout, au lieu de nous juger, de nous critiquer.
Est-ce que la représentativité des plus pauvres, elle est difficile dans ce pays, dans les syndicats, oui, dans les partis politiques, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à réussir, Christine,
oui,
Lazerge?
Oui, c'est extrêmement difficile.
Il y a des associations de chômeurs qui sont en dehors des syndicats, par exemple.
Oui, mais c'est très difficile à réussir par le mal-être des plus pauvres, à être confronté à des personnes qui ont un regard... quelquefois qui les humilient. Et donc, quand on cherche à faire une politique participative, en général, on n'associe pas, rarement, les plus pauvres. Ou alors, de façon ponctuelle, on travaille sur les enfants roms. Et à ce moment-là, telle association ou telle institution...
C'est de la participativité, si je peux dire ça comme ça, qui vient d'en haut, quelque part, hein.
Elle peut venir d'en bas. Mais c'est plus difficile à construire quand elle vient d'en bas, quand le « en haut » ne l'a pas pensé comme ça. Et comme il a plus de pouvoir que le « en bas », le débat participatif va plutôt être organisé par ceux qui ont le pouvoir, même si c'est une grosse association, même si c'est un parti politique, même si c'est une institution comme la CNCDH. Alors, on auditionne les plus pauvres, mais... ça n'est pas suffisamment participatif.
On en revient.
Mais les universités populaires, nous avons organisé avec ATD une université populaire dans mon université, qui est Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai plus appris sur un certain nombre de difficultés émises et racontées par ceux qui les vivaient qu'en lisant quantité de bouquins sur les plus pauvres.
Est-ce qu'on n'en revient pas ?
Des choses concrètes. Des choses concrètes. Par exemple, l'orientation dans un lycée, vous êtes très pauvre, et bien le conseiller d'orientation va vous envoyer vos enfants...
directement dans le secteur professionnel.
Directement. Voilà. Même si l'enfant... parce qu'il dira, de toute façon, vous n'avez pas les moyens, il ne réussira pas. Il passe un bac général, ensuite il n'aura pas l'argent. Donc, il y a un cumul de handicaps... dont on n'a pas suffisamment conscience.
Est-ce que, finalement, on n'en revient pas à cette vision centralisatrice de la France ? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut remédier à ce qui, manifestement, est vécu comme un manque d'écoute, Yannick Vaugrenard ?
Oui, j'entends bien. Mais en même temps, parce que je vous respecte, parce que je considère que nous sommes sur un pied d'égalité, vous et moi, deux citoyens de France... je n'accepte pas que vous disiez que moi, je n'aime pas les pauvres. J'accepte pas ça, cette accusation. Je la trouve injuste. C'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on est ignorant de la détresse des autres. Donc voilà, je vous le dis parce que je vous respecte. Sinon, je vous ignorerais en disant « c'est pas grave ». Non, moi, j'accepte pas ça. Ensuite, j'ai travaillé avec le comité de lutte contre l'exclusion, où là, ils ont mis en place le 8e collège. Et je trouve que c'est une excellente initiative. Parce que c'est à partir de gens qui ne sont pas...
De quoi s'agit-il, pour ceux qui ne sont pas au courant?
Ce sont des personnes qui ont été en situation de pauvreté, qui savent ce que c'est que d'être dans la pauvreté, que d'être dans la rue, que d'être en situation d'exclusion. Ce ne sont pas des représentants des associations caritatives et humanitaires, mais ce sont les associations caritatives et humanitaires qui prennent des personnes qui ont été dans cette situation difficile humaine et qui sont au Conseil de lutte contre l'exclusion pendant un an et demi, 2 ans, mais qui sont formés aussi, formés à la prise de parole. Parce que sinon, s'ils ne sont pas habitués, ils sont, je dirais, stressés, ils ne s'expriment pas. Donc c'est tout un processus. Ce qui existe maintenant au niveau du Conseil de lutte contre l'exclusion, moi je pense qu'il faut le mettre en place de manière, je dirais, presque systématique. Dans les municipalités, lorsqu'il s'agit des logements HLM et de l'affectation des logements, lorsqu'il s'agit, vous le disiez tout à l'heure, et je partage vraiment votre point de vue sur la formation professionnelle, lorsqu'on parle de formation professionnelle, comment voulez-vous former quelqu'un qui a été 3 ou 4 ans en exclusion ? C'est pas vrai. Il faut des sas, il faut des passages, il faut se réhabituer à se lever le matin. Il y a plein de choses comme ça. Donc on ne va pas, du jour au lendemain, considérer que la formation professionnelle, on la change du tout au tout.
Actuellement, la formation professionnelle, pour être clair, il faut déjà avoir une profession pour en bénéficier, Yannick Vaugrenard.
Il ne faut surtout pas être en exclusion, en situation d'exclusion.
Oui, et c'est à cet égard que les emplois aidés pouvaient être un premier tremplin avant la formation professionnelle et pas après, et pas commencer par la formation professionnelle. On n'est pas en situation de pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle quand on est dans l'exclusion. Et ce pont que peut constituer l'emploi aidé peut justement vous faire parvenir à la formation professionnelle. Donc on prend les choses à l'envers.
Jean-François Naton.
Ce qui m'amène avec, là aussi, toute la bienveillance. On a tous des parcours singuliers. Et moi, je suis engagé syndicalement. Et quand je ramène toute l'expérience de 95, le collectif Alerte contre l'exclusion, c'était aussi et avec les personnes en situation d'exclusion. Et ça a été un électrochoc que nous continuons à transmettre dans les responsabilités aujourd'hui que je suis à la Confédération. Et c'est une vraie certitude que c'est bien avec celles et ceux qui sont à la rue et qui n'ont pas pignon sur rue que l'on bâtira et que l'on va s'en sortir. Mais ce qui m'amène quand même à être très interrogatif sur les volontés gouvernementales et les actuelles. Donc il faut qu'on travaille le singulier, mais qu'aussi qu'on interroge celles et ceux qui ont quand même le pouvoir de faire et le pouvoir de donner les moyens à celles et ceux qui peuvent rentrer dans ces processus de combat.
Bernard Monnet, on va vous laisser le mot de la fin, parce qu'en fait, c'est le mot de la fin que vous avez eu ce soir. Vous avez conclu la cérémonie du Trocadéro par une interpellation. Le message que vous souhaitez transmettre pour ce 30e anniversaire de la journée mondiale du refus de la misère ?
Le message, c'est sûr, c'était tout le thème de notre campagne cette année. Faisons un autre monde, c'est possible. Ce monde-là est possible, un autre monde est possible. On a prouvé depuis 30 ans que les plus pauvres pouvaient être aussi acteurs de la société. Et on souhaiterait vraiment que les 30 années à venir, mais on fasse tous ensemble ce pari que dans 30 ans, il n'y ait plus un enfant pauvre qui ne va pas se former à l'école. On fait un pari que vous puissiez tous, je m'excuse tout à l'heure, je ne dis pas que les politiques, je sais bien que vous êtes tous, que vous aimez quand même les personnes, mais franchement, je vais vous dire une chose, un homme qui a bu dans son travail ou ailleurs, comment on va pouvoir continuer avec lui ? C'est cette question-là d'amour que je parlais. C'est pas simplement... C'est comment accepter celui qui est à côté de nous et qui pue ? Qui pue ? Faut être courageux, faut parler franchement. Les syndicats, c'est pareil. Moi-même, est-ce que je suis capable d'être à côté de quelqu'un qui pue et de lui dire, mon grand, t'es un homme comme moi, on va faire route ensemble. C'est ça, dans 30 ans, que je souhaiterais que chaque citoyen, chaque citoyenne puisse se dire, mais ce gars-là, cette fille, cet enfant, ce jeune, il est comme moi. Voilà, c'est... aimons-nous et allons vers une société autrement. C'est ça qu'on veut faire passer.
Merci Bernard Monnet. On a vécu pendant toutes ces deux heures des moments assez forts. Et il va y avoir peut-être un peu une fête ce soir. Je crois que c'est prévu à l'Olympia. Il y a un concert pour ATD Quart-Monde qui est animé par Claudie Sierre. Salut Claudie.
Oui, salut Guillaume.
Alors, qu'est-ce qui est sur ton programme ce soir ?
Ah bah, nous sommes là dans les loges de l'Olympia, exceptionnel, avec évidemment beaucoup d'invités. Christophe Willem, Laurent Voulzy, Kerry James, JP Manova, Mokalamiti, Dana Kiel, beaucoup de monde, et des surprises. Je pense aussi à Awali. Il y aura Alain Souchon avec nous sur scène. Il est venu vraiment parce qu'il est en solidarité avec l'action d'ATD Quart Monde. Et puis, nous rappellerons évidemment qu'ATD Quart Monde a 60 ans cette année.
Bah, écoute, on l'a rappelé ce soir. Et puis, on remercie voilà. Tous ceux qui ont participé à cette émission spéciale.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité.
Demain.
Pourquoi cartographier notre cerveau ? Pourra-t-on un jour décoder ses innombrables connexions jusqu'à le télécharger sur ordinateur ? Cauchemar ou réalité, le cerveau artificiel ?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.